Bon après-midi à tout le monde. Merci à Daniel. C'est un plaisir d'être avec vous pour partager donc les trois quarts d'heure qui suivent pour vous parler des procédés plasma à basse température pour les dépôts de couches minces de silicium. Et on va voir comment on peut passer des matériaux désordonnés, un matériau amorphe vers un matériau cristallin. Donc c'est dans les cadres. Voilà. Donc merci à Daniel et la chaire, la Fondation Bettencourt-Schuller. Donc, je m'appelle Pere Roca-Cavarrocas, je travaille au laboratoire de physique d'interface et des couches minces à l'École Polytechnique et à l'Institut photovoltaïque Île-de-France. Et donc voilà, l'objectif des séminaires, c'est de vous montrer comment, en utilisant ces milieux plasma, ça marche, oui. Comment en utilisant les milieux plasma, on peut faire des matériaux. Alors ça va être simple, on va parler que du silicium. Juste avec le silicium, en faisant varier la structure des matériaux, des atomes, comment on les empile, on va obtenir des propriétés optiques électriques très différentes et on va pouvoir couvrir une grande gamme de propriétés. Alors, le contexte, donc, vous le connaissez, c'est l'énergie solaire, c'est un peu notre planète, on est ici, notre maison, qui tourne grâce à l'énergie, on en consomme de plus en plus. Et donc on va utiliser surtout des énergies fossiles aujourd'hui. L'enjeu, c'est de remplacer ces énergies fossiles par un mix énergétique dans lequel il y aura de plus en plus d'énergie solaire photovoltaïque. Et donc, essayer de convertir, faire que la planète tourne et soit verte, et pas grise, je dirais. Pour faire ça, donc, si on regarde l'énergie solaire, la zoologie, je pense que vous avez, ceux qui suivent les cours, ont déjà vu ces graphes plusieurs fois. C'est un graphe qui est fait par l'ENRL, où on compile la zoologie, je dirais, tous les types de cellules solaires que vous pouvez imaginer. Elle se retrouve ici, et on voit l'évolution des rendements en fonction des années. Alors, moi, je vais m'intéresser à cette filière, ici, en vert, c'est celle qui correspond donc aux couches minces de silicium, qui commence en des années 70, 80, là, c'est l'année où je suis arrivé à Paris, à l'École Polytechnique. On va suivre un peu l'évolution de cette filière sur les 20 dernières années pour aboutir à des rendements de 15 à 20%. Et après, on va voir que bah, ça ne suffit pas, les 15%, ça ne suffit pas face au cristallin. Donc, on va marier les silicium amorphes avec les cristallins pour monter avant 6, avant 7% de rendement. Et l'étape suivante, ça va être d'aller plus loin parce qu'on veut toujours un peu plus. Et toujours essayer de voir comment, par des procédés. Donc, je vais rester tout le long de l'exposé dans mon procédé plasma. Je vais rester avec un procédé plasma à basse température. Et avec ces procédés, je vais essayer de faire des matériaux qui nous permettront d'arriver au 27, 30, 35, aller au-delà de 30% de rendement. Alors, si on regarde les marchés du photovoltaïque, aujourd'hui, donc ça, c'est la production annuelle en fonction du temps. Et vous voyez que dans cette production, si on regarde en 2020, c'était de l'ordre de 150 gigawatts de panneaux photovoltaïques qui ont été produits. Et sur ces 150 gigawatts, la grosse partie, c'est en bleu, c'est du silicium cristallin. C'était l'objet du séminaire précédent de la semaine dernière. Dans les années 80, quand je commençais ma thèse ici, c'était évident que les cristallins allaient disparaître et que les couches minces, pour les raisons que Daniel vient d'expliquer, allaient prendre tout le marché. Pourquoi ça n'a pas été comme ça? Pourquoi les couches minces se sont fait battre jusqu'ici? Alors, il faut revenir à la structure de la cellule de base. C'est la structure où on prend un wafer de silicium cristallin de l'ordre de 100 microns, 160 microns, et on fait cette structure qui s'appelle aluminium back surface field. Donc, en fait, silicium cristallin de type P, on met, alors le diagramme il est là, on met un contact arrière en aluminium, facile à faire, on fait une jonction PN en diffusant les phosphores dans un four à 800 degrés, on grave les bords, on fait une couche d'antipode, une couche anti-reflet, un étrou de silicium qui est fait par plasma, et on fait un recuit à température. Donc, quand vous regardez ça, c'est vraiment plus facile que ça, on n'arrive pas à faire, je dirais. C'est très simple, il y a peu d'étapes, et donc c'est quelque chose qu'on peut reproduire comme des baguettes, et donc on a une grande productivité. Et c'est ça qui a permis à l'industrie photovoltaïque de se développer, de passer de quelques centaines de mégawatts à des centaines de gigawatts. En 20 ans, on a multiplié par un facteur 1000. Et c'est parce qu'on a reproduit ces schémas de façon comme dans une imprimerie. Alors, donc ça, pour moi, c'est le succès des cristallins. Il est là. Ce n'est pas parce que c'est les meilleurs matériaux, ce n'est pas parce que c'est les plus hauts rendements, c'est parce que c'est On est dans une chaire d'innovation technologique. Et cette technologie, elle était extrêmement simple. Et c'est ça dont on a besoin pour faire la grande production. Maintenant, les défis, c'est, on revient à notre planète, les défis, c'est quand même de fournir de l'énergie à la planète, faire tourner la Terre. Nous, avec. Et donc, si on regarde les prévisions de la demande de puissance, si on se projette, l'estimation, c'est que pour 2100, on aura besoin de l'ordre de 46 TWh, bon, 10-14 watts. Si on fait une hypothèse que 30% de cette énergie va être fournie par du photovoltaïque, je ne dis pas 100%, 30%, mettons, ça veut dire qu'on a besoin de 13 TWh, 13,8 TWh de photovoltaïque, avec un facteur de charge, les photovoltaïques ne fonctionnent pas tout le temps, il y a des jours et des nuits, tout ce que vous voulez, donc un facteur de charge de 15%, c'est ça, parce qu'il faut installer un panneau photovoltaïque, 92 TWh. Avec une durée de vie de panneau de 25 ans, ça nous mène à une production annuelle nécessaire de 3,68 TWh par an. Aujourd'hui, on produit 0,15 TWh. Donc, si on compare ça, il nous manque enfin. Il faut faire 25 fois plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Avec 25 ans, si on mettait 40 ans, et aujourd'hui, il y a des fabricants de panneaux qui proposent des durées de vie de 40 ans, donc ça serait moins. Mais on peut se dire que ça, c'est beaucoup. Alors, il faut le mettre en perspective. Et si on met en perspective, ce qu'on voit, c'est qu'entre 2000 et 2020, on est passé de 0,2 à 150 gigawatts. Donc, en fait, sur cette période... Oui.
C'est de la puissance ou de l'énergie?
Ça, c'est de les terawatts, c'est de la puissance. L'énergie, c'est des terawattheures. Est-ce que, si vous voulez, on va traduire ça en kilowattheure, et c'est pour ça que j'ai mis un facteur de charge, effectivement. Mais la puissance qu'on consomme, qu'on va consommer sur la Terre, c'est 46 terawatts tout le temps. Voilà. 24 heures sur 24. D'accord? On peut. Mais, ben c'est les ordres de grandeur, et les ordres de grandeur, c'est pour dire qu'il faut faire encore un facteur 25 par rapport à aujourd'hui, mais on a fait sur les 20 dernières années, on a fait un facteur de 150. Donc on peut le faire, c'est pas quelque chose d'utopique. Il y a des conditions limites. Et les conditions limites, c'est il faut, si on veut augmenter la capacité, il faut des matériaux abondants, si possible, va coût pour être compétitif. Il faut qu'on produise ça par des techniques qui émettent pas trop de CO2, qui ne consomment pas trop d'énergie, sans effet pour la santé, qui soient stables, qui soient recyclables. Donc voilà, ça, c'est les conditions limites. Et quand on regarde tous les matériaux, les technologies, tout ça, tout ce que nous a montré Daniel précédemment, on se dit que finalement, la filière silicium, elle a des atouts, surtout si elle était moins consommatrice en énergie, si elle était plus mince. Et donc voilà, je vais parler des couches minces en silicium. Alors c'est un peu, dans ma casquette maintenant IPBF, donc la feuille de route qu'on a dans l'Institut photovoltaïque Île-de-France, à Palaiseau, c'est de développer des technologies. On a les panneaux, la zoologie, elle est là. Il faut faire des choix, on ne va pas tout faire. Il faut faire des choix qui nous permettent d'atteindre cet objectif de 30-30-30. C'était Daniel qui avait lancé cette initiative. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut avoir des cellules ou des modules avec un rendement de conversion de 30%, avec un coût inférieur à 30 centimes d'euros les watts pic, pas les kilowattheures, mais ça fait des kilowattheures à 0,2, 0,3 centimes, si vous voulez, des kilowattheures. Et tout ça en 2030. Donc, il y a aussi une notion de temps. Et on pourrait rajouter une notion de durée de vie. Il faut que ça dure 30 ans, 40 ans. Et pour ça, on développe des cellules tandem à l'Institut, basées sur du silicium. Donc, c'est des tandems sur du silicium cristallin. Le silicium cristallin, c'est la ligne de base. Ça va être difficile à détrôner. Mais pour aller il est limité en rendement. Donc, si on veut faire plus, on va mettre des pérovskites ou des matériaux 3,5 au-dessus. Et tout ça, c'est dans le cadre des programmes où on analyse les opportunités technico-économiques. Qu'est-ce que c'est qu'une cellule tandem? Donc, on va partir sur du silicium cristallin, ou l'agention PL, si vous voulez, classique qu'on a vu précédemment, sur laquelle on va rajouter une deuxième cellule avant, un matériau à grand gap, qui va convertir de façon efficace les photons de grande énergie. Et donc, ça, on peut le faire avec une configuration 4 terminaux. Donc, c'est simplement une cellule, l'autre, sont indépendantes, elles fonctionnent indépendamment. On a un couplage optique et le tour est joué. Une façon plus élégante, c'est de combiner ces cellules avec seulement des terminaux, donc les contacts positifs et les contacts négatifs, et mettre ici une jonction récombinante, ou une jonction tunnel, Je vais y revenir tout à l'heure. Mais ça simplifie, si vous voulez, la connectique, ça simplifie la production des dispositifs. Et donc, ça veut dire qu'il faut adapter, et c'est ce qu'on fait à l'Institut photovoltaïque, c'est d'adapter cette cellule silicium cristallin aux cellules avant, soit de la perovskite, soit des matériaux 3,5, soit des matériaux de 6, ou autre possibilité. Mais toujours, en perspective, qu'on veut transférer à l'industrie, on veut proposer des solutions aux industriels, à l'industrie photovoltaïque, et donc on va transférer des procédés ou des briques qui soient compatibles avec l'industrie. Alors, donc voilà, ça c'était un peu l'introduction. Je viens maintenant au sujet de mon exposé, qui est les couches minces de silicium par dépôt plasma. Alors, les plasmas, vous avez ici l'image, c'est un gaz ionisé. Les outils industriels, c'est des machines dans lesquelles on fait les plaques de 5 mètres carrés que vous avez montré, Daniel, tout à l'heure. C'est aussi utilisé pour les écrans plats. Donc, au départ, c'était les siliciums amorphes hydrogénés, 84. On a évolué vers des matériaux nanostructurés, silicium polymorphe, vers des cellules tandem à triple jonction. Donc ici, on augmente les rendements et la productivité. Il y a une période que j'appelle les mariages de raison. On va combiner l'amorphe et les cristallins pour aller vers les 26-27% de rendement. Et on va essayer de faire des cristallins à basse température, pas à 1400 degrés, à 200 degrés. Et ça, on peut le faire dans ces machines. Et pourquoi pas des matériaux 3,5. Les matériaux 3,5, c'est étant les graals en termes de rendement, mais il faut baisser les coûts. Donc c'est un peu voilà, l'excursion que je vous propose dans la demi-heure qui suit. On commence bien avant que ça. On commence en 1879. Les bulletins de la Société française de chimique de Paris, pardon, dans laquelle Jules Ogier écrit, et je trouve ça délicieux, c'est « J'ai constaté, en effet, qu'un petit nombre d'étincelles électriques détruisent ces gaz rapidement avec précipitation de silicium amorphe. » Donc le premier rapport sur le silicium amorphe, 1879, une décharge électrique dans un gaz, le silane, vous faites du silicium amorphe hydrogéné. On a mis du temps, enfin ça c'est resté là, je dirais. Et après, aujourd'hui, les couches minces de silicium amorphe, je pense que vous en avez tous usage, c'est utilisé par tout le monde, je pense que tout le monde dans la salle, certainement, c'est les photovoltaïques intégrées au bâtiment, peut-être que pas tout le monde ici, mais les gros panneaux que vous montrez, Daniel, ben là, ils font des murs des édifices sur les toits. Les écrans plats, ça vous utilisez, on utilise tous les écrans plats. L'écran plat fonctionne parce qu'il y a une électronique, un affichage, avec des transistors qui sont faits avec des silicium amorphe, des photodétecteurs, des webcams, des imagières de rayons X, et des photovoltaïques souples. Si on fait des couches minces, les siliciums minces, il est flexible, il est souple, et ça permet de faire de ce type de modules. Comment ça marche? Alors, on peut passer beaucoup de temps à expliquer la physico-chimie des plasmas. Je vous montre... Imaginez que vous pouvez mettre les nez dedans. Dans un réacteur plasma, vous avez un gaz, les silanes, vous avez des électrons, vous avez des ions, vous avez des collisions, et les collisions entre les électrons et les silanes produisent des radicaux, des espèces réactives, et ces espèces réactives, elles vont s'accrocher à la surface et déposer, produire une couche mince. À 200 degrés, ces atomes sont désordonnés, la couche mince, c'est un silicium amorphe, c'est normal. On va voir par la suite que si on utilise, si on ajuste les conditions de plasma, la pression, la température, la puissance, on peut former des agrégats, on peut former des nanocristaux. Et dans ces conditions-là, on obtient un matériau nanostructuré dans lequel on a un mélange de radicaux des nanocristaux. C'est ce qu'on appelait silicium polymorphe, qui a des propriétés électroniques améliorées. Et surtout, on va y venir, c'est des vitesses de dépôt plus élevées par rapport au silicium amorphe hydrogéné. Donc ça, c'était un peu pour les sentir un peu comme ça visuellement. Le réacteur, il est là, c'est deux électrodes planes parallèles, vous appliquez une tension, vous injectez vos gaz, les silanes, on en a parlé, mais bien sûr, vous pouvez mettre aussi des germanes si vous voulez faire des alliages pour varier l'énergie des gaps, vous pouvez mettre de l'hydrogène pour cristalliser, vous pouvez mettre de la phosphine, du triméthylbore. Bon, en fonction des gaz qu'on va mettre là-dedans, on aura différents types de matériaux. Comme je vous disais, l'impact entre l'électron et les silanes va produire des radicaux, ces radicaux condensent, et donc le modèle standard, c'est à partir de ces radicaux qu'on dépose une couche mince de silicium amorphe. L'intérêt de ces procédés, c'est les grandes surfaces, donc l'électronique grande surface, les écrans plats, ça existe parce qu'on peut faire des dépôts de silicium sur une grande surface, à basse température, et sur des substrats flexibles. C'est-à-dire à 200 degrés, vous pouvez déposer sur du plastique, sur du feuillard, sur de l'aluminium, sur ce que vous voulez. Si on rentre dans les détails, Donc c'est un peu la même vue des schémas, donc l'électrode radiofréquence sur laquelle vous pouvez appliquer votre champ électrique, une douche, parce que ça va faire maintenant 3 mètres de long, 3 mètres de large, donc il faut injecter les gaz de façon homogène. Les plasmas, c'est un gaz ionisé. Point important, c'est un procédé hors équilibre. C'est-à-dire que dans ces plasmas, les champs électriques vont accélérer les électrons. Les électrons foncent comme des malades. On mesure la température électronique, quelques EV. Un électronvolt, c'est 11 600 Kelvin. Donc vous avez des électrons qui sont à des dizaines de milliers de degrés et vous avez les gaz qui est à 200 degrés. Les résultats des courses, c'est les radicaux qui interagissent avec le substrat, des photons, des électrons, des ions positifs, des ions négatifs, des agrégats. Enfin, c'est toute cette complexité, toute cette richesse qui va aboutir à ces substrats et qui va produire une couche mince de silicium ou d'autres choses en fonction de ce que vous injectez. Alors, donc, bon, on va y revenir parce que dans les modèles standards, on parle beaucoup des CH3, mais en fait, il y a beaucoup plus d'autres choses dans les milieux. Alors, quant aux les gens qui ont commencé dans les années 80 à travailler sur les silicium amorphes, premier problème, c'était les dopages. Dans les cristallins, vous avez un réseau ordonné et vous dites, je remplace des silicium par les phosphores, j'ai un dopage substitutionnel, tout va bien. Dans les matériaux désordonnés, on a appris que la règle de l'octet dit que la coordination d'un atome dans un solide désordonné, c'est le minimum du couple N et 8 moins N. Vous avez les phosphores qui a 5 électrons de valence, donc le minimum de ces couples-là, c'est 5 ou 8 moins 5, c'est 3. Donc les phosphores ne peuvent pas être substitutionnels dans les silicium amorphes. Sir Neville Mott, prix Nobel de physique, il a bien écrit, vous ne pouvez pas doper les silicium amorphes. Et si on ne peut pas faire de dopage, il n'y a pas de jonction PN. Ben non. Bon, après, il y a des chercheurs qui font des manips quand même et qui mettent du borane ou de la phosphine et qui mesurent la conductivité des couches. Ça, c'était Spiller-Lecomber en 1974 et qui montre que vous pouvez moduler la conductivité des matériaux, soit de type P, soit de type N, sur 10, 11, 12 ordres de grandeur. Donc, il y a du dopage. Et une fois qu'on l'a observé, il y a Street qui expliquait comment ça marchait. Et donc, pour avoir ces phosphores qui voudraient être tricoordonnés, l'avoir tétracoordonné dans les siliciums, ça, on peut le faire, mais les prix à payer, c'est un défaut. Et donc, les siliciums amorphes d'OPP ou d'OPN, on les dope, mais il est... Bien, déjà, l'amorphe, vous pouvez imaginer qu'il y a des défauts, mais quand il est dopé, c'est pire. Et donc, résultat des courses, on ne peut pas faire une jonction PN, on va faire une jonction PIN, la couche intrinsèque, il n'y a pas de dopant, et elle a moins de défauts. Si on veut faire une couche PIN, là voilà, donc vous prenez votre substrat, on les met dans les réacteurs, ces substrats, c'est substrat de verre avec une couche d'un oxyde transparent conducteur, ou ici, vous avez la coupe, donc ça c'est une couche qui est une électrode transparente. On va mettre du silane, du méthane, du bor, du borane, et donc avec ça, vous déposez une couche qui va être dopée type P, un alliage silicium carbone d'OPP, une dizaine de nanomètres. Donc là, c'est vraiment fin et qui va recouvrir, vous ne la voyez pas dans ces schémas, mais elle recouvre bien la couche des CNO2. La couche intrinsèque, celle-là est vraiment épaisse, 0,3 microns. C'est enfin, pas grand-chose. On finit avec les... On change, donc tout ça, c'est juste changer les gaz dans les réacteurs. Je mets l'un, je mets l'autre. Et à la fin, c'est fini, on met un contact aluminium et vous avez votre cellule PIN. D'accord ? Si on regarde comment ça fonctionne, c'est dans ces structures-là, ces matériaux ont des défauts. Par rapport au cristal, la mobilité dans les siliciums cristallins, c'est de 1000. Dans les siliciums amorphes, c'est de 1. Donc, ce n'est pas du tout une Ferrari, c'est vraiment la deux chevaux, mais des années 60. Enfin, je ne sais pas. C'est ou la bicyclette, si tu veux. Donc, c'est des très mauvaises propriétés de transport, mais on a les champs électriques ici. Et ces champs électriques créés par les contacts positifs et négatifs vont faire que lorsque vous envoyez un photon, que vous créez une paire d'électrons-trou, c'est des champs électriques qui vont les séparer. Dans les cristallins, c'est la diffusion. Dans ces couches minces, c'est le champ électrique qui permet de séparer l'électron vers les contacts négatifs, les trous vers les contacts positifs. Et donc, du coup, vous avez une cellule qui fonctionne. Et si on regarde, alors si on faisait le pari, avec une mobilité 1000 fois plus faible, est-ce que vous avez un rendement 10 fois plus petit, 100 fois, enfin, on peut lancer les paris. Mais non, la réponse, elle est là. Les meilleures cellules PIN à base de silicium amorphe font des rendements autour de 10%. avec des tensions, des courants de court-circuit. Alors, en fait, 10%, il est limité parce que si on regarde la réponse spectrale, donc la réponse spectrale, le nombre d'électrons qu'on collecte par photon en fonction de l'énergie des photons incidents, vous voyez que, en fait, au-delà de 700 nanomètres, donc à partir d'un 6 EV, il n'y a plus rien qui est absorbé, le matériau est transparent. Donc, si on veut rendre cette technologie compétitive, ce qu'on a fait dans les années 2000, c'était essayer d'augmenter la productivité de l'outil, la vitesse de dépôt, et élargir la gamme spectrale de façon à avoir plus de courant. Première étape, augmenter la vitesse de dépôt, c'est facile. Vous avez ici un graphe vitesse de dépôt en fonction de la densité de puissance. Et ce que vous voyez, c'est que plus vous mettez de puissance, plus votre vitesse augmente. On passe de 0,1 à 1 à 10 nanomètres par seconde. Ça, c'est déjà c'est beaucoup. Il y a un piège, vous vous en doutez bien. Et les pièges, c'est, si on revient dans notre schéma, qu'est-ce qui se passe dans le réacteur? Si vous augmentez la puissance, vous augmentez les collisions électrons-silane. On produit plein de radicaux, d'espèces réactives. Ces radicaux peuvent accrocher à la surface, mais peuvent aussi réagir avec les gaz qu'il y a là, avec les silanes. Et quand on a ça, donc si on augmente la puissance, ce qu'on va avoir ici, c'est une chimie extrêmement riche dans laquelle on aura des réactions secondaires qui vont donner lieu à la formation de polymères, d'espèces, des SI2, SI3, SI10, SI100, SI1000, donc des choses, des particules de plus en plus grandes, et la poudre. On va faire des poudres dans les réacteurs de dépôt. Et quand vous faites des poudres, là, c'est mal parti parce que vous travaillez avec un outil, sale blanche, tout ce que vous voulez, et dans les réacteurs, il neige. Ça ne va pas le faire, non? Donc, ce qu'on va faire, c'est, à ce moment-là, vous repartez dans les labos et vous commencez à réfléchir comment je suis arrivé, comment, à partir d'un radical, j'aboutis à une poussière dans mon réacteur. Et pour comprendre ça, pour comprendre ça, ce que vous dites, c'est il y a certainement une historique, ça se déroule en fonction du temps. Donc on va pulser la décharge, on va couper, et on va couper à différents temps. On va couper à 100 millisecondes, à 200 millisecondes, 400, et ainsi de suite. Et on va déposer sur une grille de microscope, on va aller regarder qu'est-ce qui s'est déposé sur la grille de microscope. Et on fait ça pour différentes chimies, différents gaz. Ce que vous voyez ici sur cette image, c'est que on voit, ça correspond dans les cas de l'hélium à une seconde de plasma, on voit des particules de taille monodispersée de l'ordre d'une dizaine de nanomètres. Mais si on réduit les temps, les tailles sont plus petites. Si on fait un silane hydrogène-argon, on a des choses encore plus petites. Si on fait la dérivée ici, vous avez la vitesse de croissance. Ici, vous l'avez aussi dans ces plasmas avec 75 nanomètres par seconde. Tout à l'heure, on était à 7, on était très content. Ici, on a monté d'un facteur 10 encore. Et surtout, ce qu'on a découvert, c'est que ces nanoparticules pouvaient être cristallines. Donc, en fait, dans ces milieux réactifs, à température ambiante, 200 degrés, on est capable de faire des nanocristaux parfaits à une vitesse hallucinante. Donc, à ce moment-là, on va se dire, on va changer les fusils d'épaule. Les poudres, c'est un problème. Je vais éviter les poudres, mais on va affiner, ajuster les conditions du plasma de façon à favoriser les dépôts de nanocristaux et d'agrégats sur mon substrat. Et donc, c'est ça qui a donné lieu au silicium polymorphe et au silicium nanocristallin. Donc, l'idée, elle est là. Vous avez, dans les polymorphes, vous avez quelques nanocristaux et des radicaux qui contribuent au dépôt. Dans les nanocristallins, on va essayer d'augmenter la concentration de nanocristaux sans basculer dans la poudre. Et c'est ça toute la difficulté. Donc là, on va faire un cours de physique de plasma la prochaine fois, mais il y a plein de choses qui se passent là-dedans. Pour les polymorphes, donc c'est ces matériaux nanostructurés dans lesquels vous avez ces nanocristaux. Donc quand on fait l'image à microscopie électronique en transmission, on voit quelques nanocristaux par-ci, par-là. Bon. Mais ce qui est plus important, c'est la matrice. La matrice qui a un ordre à moyenne distance. Si on regarde un point de l'image et on fait la fonction d'autocorrélation de ces points, ce qu'on voit, c'est qu'on voit apparaître des anneaux, c'est-à-dire qu'il y a un ordre entre les premiers, les deuxièmes, les troisièmes voisins. Ce n'est pas l'ordre infini comme dans les cristals, mais par rapport à l'amorphe, on a gagné un ordre du matériau. Et c'est cet ordre à moyenne distance qui confère des meilleures propriétés de transport et stabilité à ces couches. Si on les intègre dans une cellule PIN, ici vous avez un module, donc vous voyez les rayures dont vous parlez, Daniel, donc ça c'est un module de 10 par 10 cm, on a augmenté la vitesse de dépôt d'un facteur 6, c'est ça, et en fait on a plus de puissance. Donc quand on regarde in fine, on augmente la vitesse de dépôt, la puissance on l'augmente un peu, mais on est toujours dans les 10% de rendement, donc ça ne compte y est pas. Et donc la deuxième approche pour augmenter les rendements, c'est d'élargir la gamme spectrale. Je vous disais, l'amorphe est limitée vers 700 nanomètres. Tout ce qui est entre 700 et au-delà, il n'est pas absorbé. Il faudrait avoir un matériau cristallisé. Est-ce qu'on peut faire des cristallins dans les réacteurs de dépôt à basse température? Si je prends l'amorphe et je le chauffe à 600 degrés, il va cristalliser. Il faut chauffer. Je ne vais pas dépenser trop d'énergie. Donc voilà les nanocristallins. Il a les bons gaps, 1,8 B. Et pour faire ça, il y a deux façons de faire à basse température. C'est soit on utilise l'hydrogène atomique. Dans les plasmas, on a SiH4. Quand on les casse, on produit de l'hydrogène. Et cet hydrogène atomique, il peut faire beaucoup de choses. Et entre autres, il peut recuire, il peut fournir de l'énergie à la surface, promouvoir la croissance cristalline. Donc ça, c'est le recuit chimique. L'autre façon plus simple, c'est de promouvoir la contribution des nanocristaux qui sont formés dans les plasmas. Et comme ça, vous faites un matériau nanocristallin, donc qu'on devine ici avec des facettes, sur un substrat de verre quelconque. Quand on fait ça, donc, c'est pareil, vous avez les mêmes substrats qu'on avait tout à l'heure, pardon, même couche d'OPP, maintenant ce sera une couche d'OP nanocristalline, les microcristallins, la couche d'OPN, et quand on fait ça, on retrouve ici, j'ai mis la réponse spectrale de l'amorphe, la réponse spectrale du microcristallin, on a gagné en réponse spectrale, on absorbe plus de photons, donc du coup on a plus de courant, mais on a réduit les gaps des semi-conducteurs, donc on a gagné en courant, on a perdu en tension. Au résultat des courses, on est toujours au 8%. On est condamné. Mais il y a des solutions. Alors la solution, c'est quoi? La solution, c'est un peu utiliser la beauté des procédés plasma, faire des cellules tandem. Et ici, c'est extrêmement facile de faire une cellule tandem. On fait une cellule PIN sur les verres Tessier de la couche P. Donc, juste en changeant les conditions de croissance, les conditions du plasma, vous faites votre couche P, votre couche J, votre couche N, et après, on enchaîne avec une deuxième PIN microcristalline, avec ici une tension récombinante. Donc, les électrons de cette cellule, il faut qu'ils recombinent avec les trous de l'autre à l'interface. Et là, les matériaux désordonnés, ça marche bien, parce qu'ils ont des défauts. Il faut un défaut pour recombiner. Voilà. Et si on fait, si on combine les deux, donc, vous avez ici maintenant la réponse spectrale de l'amorphe, la réponse spectrale microcristallins, elles travaillent ensemble, elles sont complémentaires, et quand on regarde les caractéristiques courant-tension de cette cellule, on se retrouve donc à additionner les tensions, 1,4 volts, avec un courant de 14 mA, ça nous fait 14,5% de rendement. Bon, c'est déjà mieux, on peut faire, il n'y avait jamais 203, donc on peut faire aussi une triple jonction, donc on va enchaîner une première PIN, une deuxième, une troisième, et avec ça, on va monter à 16% de rendement. Et c'est les plus hauts qu'on ait fait. Si on fait un peu le bilan de la filière silicium amorphe hydrogéné, qui, vous avez vu, c'est des PIN, des tandems, des triples jonctions, on passe de 10% à 18% ou à 16% expérimental. Si on fait la modélisation, on se dit qu'on pourra faire des 20%. Mais les siliciums cristallins, eh bien, au-delà, et je vous ai dit, à l'IPVF, on veut faire du 30%. Donc là, ça ne suffit pas. D'accord ? Alors, avant d'arriver au 30%, on va peut-être essayer de combiner les silicium cristallin et l'amorphe. Donc, au lieu de mettre ici un substrat de verre, on va mettre un substrat de silicium cristallin. C'est ce qu'on appelle une cellule à hétérojonction. Et donc, c'est juste changer les verres par des silicium cristallin. Vous avez ici les wafers de silicium cristallin, qui est plus cher que les verres, sur lesquels on va déposer, pareil que tout à l'heure, un peu de plasma de silane, un peu de silane avec des bords, on a l'empilement IP. De l'autre côté, un peu de silicium, un plasma de silane, un plasma de silane avec de la phosphine, on a la couche N. Donc on a créé notre hétérojonction. Hétérojonction parce qu'on a deux matériaux différents, un à petit gap, les cristallins, et à grand gap, les silicium amorphes. Alors, on met les contacts, transparents ou pas, les contacts métalliques, et c'est ça la cellule hétérojonction dont vous a parlé Étienne la semaine dernière. L'intérêt de ça, c'est que les silicium amorphes hydrogénés, parce qu'il est hydrogéné, parce qu'il y a de l'hydrogène, passivent parfaitement les silicium cristallins. Et donc ça, c'est ça qui permet d'avoir des cellules hétérojonction à très haut rendement. On est à basse température par rapport à la jonction PN dont je vous parlais tout à l'heure, où il faut faire la diffusion des phosphores et un état de firing qui vont passer à 800-900 degrés. Tout ça, ça se passe à 200 degrés. Et donc, à 200 degrés, ça veut dire que, par exemple, je peux fabriquer des cellules de jonction sur des OFR minces. Si vous faites un firing ou un recuit des électrodes à 800 degrés, l'aluminium et le silicium ayant un coefficient de dilatation différent, quand ça refroidit, ça plie et ça craque, ça pète. Vous ne pouvez pas faire une cellule, une jonction PN classique avec une couche de 70 microns, avec un OFR de 70 microns, ça ne marche pas. Donc l'hétérojonction permet ça. Ça, c'est pour le plaisir. Donc, ce qu'on arrive à faire, ce qu'on faisait au laboratoire en 2014 avec Igor Sobkovitz, donc voilà, une cellule cristalline, cellule de laboratoire. On voit les pyramides parce qu'on a texturé pour avoir des piges optiques. Et on a des bonnes tensions, on a des bons facteurs de forme et on a notre 20% de rendement. Au niveau mondial, ce qui se fait aujourd'hui, c'est les records. Les records pour la filière cristalline, c'est avec cette technologie, cristallin avec de l'amorphe déposée par plasma. Les records, c'est 26,7. Et l'architecture, c'est ce qu'on appelle l'IVC, donc les contacts N et P, ils se retrouvent du même côté de la plaquette. La face avant, elle est libre, et donc ça permet de récupérer plus de photons et avoir les 26,7. C'est magnifique. C'est là où est les records de l'industrie des silicium cristallin aujourd'hui. Mais vous avez toujours besoin de silicium cristallin. Alors, je vous ai dit au début, c'est génial, ça a marché, parce que cette jonction PN, il n'y a pas plus facile à faire que ça. J'ai oublié de vous dire que pour obtenir une plaquette et les cellules, il faut les plaquettes, ça vient des lingots, enfin, c'est tout ce que disait, c'est toutes les étapes que tu as supprimées, Daniel. Donc les lingots, il faut faire des polycristallins, il y a des procédés pour obtenir des polycristallins, et donc tout ça vient des solutions métallurgiques qu'on a converties en un gaz ultra pur. Les procédés plasma dont je vous parle depuis le début, c'est prendre les gaz, les mettre dans un plasma et déposer la cellule PIN, le tandem, tout ce que vous voulez, faire directement les modules. Donc c'est pour ça que ces procédés, cette technologie, devrait avoir les dessus, devrait être compétitive, à condition d'avoir les rendements. Alors, est-ce qu'on peut faire du silicium cristallin par plasma? Est-ce qu'on peut déposer, je peux faire des microcristallins, est-ce que je peux faire un cristal parfait? Parce que ce serait quand même génial si on pouvait faire les cristallins au prix de l'amorphe. Est-ce que c'est possible? Et je pense que ça, c'est quand on discute avec les étudiants, c'est toujours ça. Si je vous dis que ce n'est pas possible, faites-les. On discutera après. C'est possible. Et en fait, quand on travaillait quand on travaillait sur les cristallins, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir un peu de cristallisation au début à l'interface. C'est un problème pour les cristallins, mais si on pouvait faire des cristallins épais, ça serait intéressant. Alors ça, je pense que c'est les graphes les plus compliqués que j'ai dans la présentation. Vous avez la partie imaginaire de la fonction diélectrique de trois couches de silicium déposées sur trois substrats différents en même temps. On a déposé en même temps sur un substrat de verre classique, j'ai un spectre qui est un amorphe, un matériau désordonné. On regarde cette partie haute énergie. Sur un substrat de cristallin orienté 1-1-1, vous voyez les mêmes spectres. La courbe en gris, la courbe en bleu, ça se ressemble. C'est de l'amorphe dans les deux cas. Mais sur les cristallins qui ont une orientation 1-0-0, ici, vous voyez que les spectres, la ligne en vert, qu'on a modélisé avec la courbe en rouge, mais les spectres, la ligne en vert ou rouge, sont très proches des spectres de référence des siliciums cristallins. Donc, on a des siliciums cristallins. Mes lunettes déformées depuis 20 ans me disent que ça, c'est des cristallins. Bien sûr, quand je vais à Soitec leur dire « je sais faire des cristallins à 200 degrés », et comme tout le monde sait que ça, ce n'est pas possible, on me dit, monsieur, ce n'est pas possible. Et bon, il faut faire des mesures. Donc, la seule chose à laquelle on croit tous, c'est les images. Donc, on va faire de l'image, on va couper une lame de cette couche, on va faire de la microscopie électronique en transmission, et là, ça, c'est les substrats, ça, c'est la couche épitaxiée. Je pense que vous voyez, j'ai mis des lignes en jaune, bon, je ne sais pas si on voit beaucoup, très bien, mais l'échelle, c'est 2 nanomètres, donc on voit les plans atomiques, en fait. Et si on veut convaincre, il faut faire la diffraction, donc on fait la diffraction d'électrons. Et là, vous voyez les spectres de diffraction de ma couche épitaxiée déposé à 200 degrés par un procédé bas coût. Ce n'est pas de la MBE, ce n'est pas de la Ferrari, je suis désolé, c'est un petit réacteur de laboratoire. Ce n'est pas de la HOMO-CBD, enfin, c'est un réacteur plasma à 200 degrés, plus bête que... Enfin, voilà. Mais les spectres de diffraction de la couche épitaxée et des substrats sont strictement les mêmes. Et c'est ça qui montre que j'ai bien gardé les atomes dans la couche que j'ai déposée ont suivi la même orientation que les atomes qu'il y avait dans les substrats. Alors, ça, c'est bien pour la structure. Après, si on veut faire des, on peut faire ces matériaux, on peut incorporer cette couche épitaxiée de silicium ou de silicium germanium, ce que je veux, j'incorpore dans les structures hétérojonction. Et voilà maintenant ma cellule cristalline qui fait 4 microns d'épais avec le courant qui est limité parce que ce n'est pas très épais, mais j'ai un facteur de forme de 80%. Sur tout ce que j'ai montré jusqu'ici, je n'avais jamais pu montrer 80%. On est toujours à 60-70. Donc voilà, on a un matériau cristallin parfait et ça me donne un bon facteur de forme, une courbe, une collecte qui est très bonne. Donc avec ça, on a des bonnes propriétés électriques et on a un record de rendement pour des cellules de 5 microns. Pour ceux qui font... Il y en a peut-être certains d'entre vous qui auront remarqué qu'ici, ce n'est pas parfait. Ce n'est pas toujours parfait. D'accord ? On voit, ici, on devine l'interface. Et en fait, c'est parce que je devine l'interface que j'ai ces... Je vais faire comme ça. C'est parce qu'il y a ces interfaces que je vois des interférences ici. Mais, donc, est-ce que cette interface, c'est quelque chose de bon ou de mauvais ? Ça, c'est la réponse. C'est les Normands qui disent peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ou c'est les Bretons, je ne sais plus. Bon. En fait, ça, on peut utiliser ça. Si on a... On va faire de silicium cristallin. J'ai fait une épitaxie silicium et on peut affiner, ajuster la pression, la puissance, la température dans les plasmas pour laisser une couche poreuse un peu plus importante que d'habitude. Et si j'ai cette couche poreuse, à ce moment-là, je peux coller les silicium cristallin sur un substrat autre, les verres, les plastiques, ce que vous voulez, vous coller et après vous détacher. Cette interface fragile me permet de faire des smart cut. Ça me permet de faire des soytech sans besoin d'implanter de l'hydrogène et de recouvrir à haute température. C'est intégré dans les process. Donc on peut faire ça, et à ce moment-là, vous avez ici une image d'un silicium cristallin d'1,5 micron d'épais collé sur un substrat de verre, et là-dessus, je peux faire une cellule cristalline toujours collée sur verre. Il n'y a pas que des siliciums, je vous disais, dans les plasmas, je peux injecter des silanes, je peux aussi injecter des germanes. Je peux mettre un substrat de silicium cristallin ou je peux mettre un substrat de GAS. Donc, les étudiants, enfin, quand j'étais étudiant, on essaye des choses différentes. Et en fait, ici, c'était pour l'imagerie, parce que pour faire de la microscopie, Gilles Patriarche me disait j'aurais un meilleur contraste sur des GAS que sur des siliciums. Donc, fais-moi un dépôt sur GAS. Et, bon, on y va. Et donc, ici, c'est les couches de germanium. C'est une multicouche. On a fait un plasma de german, un plasma de silane, un plasma de german, et ainsi de suite. Et quand on regarde à l'interface, GAS germanium, ben on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure. On arrive à voir ici l'interface. Je pense que si je n'avais pas mis la ligne ici, vous la verriez pas. Donc on peut avoir une croissance cristalline parfaite de germanium sur silicium à 200 degrés dans mon petit réacteur plasma. Et ici, on est dans la route vers des tandems 3-5 silicium, vers des très hauts rendements. OK ? Alors, si on veut faire des très hauts rendements, donc c'est ça, voilà, les cellules 3-5, les records avec des multijonctions, c'est 47%, mais elles sont limitées à l'espatial. Parce que, grosso modo, c'est 100 fois plus cher qu'une cellule cristalline. Et les coûts, il est dû à quoi? Si on regarde l'analyse des coûts, ça c'est une étude de l'NRL, en fonction de la capacité de production, mais vous voyez que ce qui importe, c'est les process, les Ferrari. Ben, les Ferrari, ça coûte cher, même pour fabriquer. Ils utilisent de la MBE ou de la MOCVD, et les substrats. Donc il faut, si on veut rendre cette technologie 3-5 compétitive, si on veut la ramener sur Terre, il faut réduire les coûts. Pour réduire les coûts, il y a deux leviers. Les procédés, passer de la Ferrari à une de chevaux, mais des chevaux, ou réduire les coûts des substrats, remplacer les substrats de germanium très chers par un substrat de silicium. Première étape, on l'a fait, récemment. Et ça, ça s'appelle les substrats virtuels. Donc un substrat virtuel, c'est quoi? Alors, pour faire l'épitaxie, donc ce que je vous disais, les 3,5 aujourd'hui, ça se dépose par MBE ou par HOMO-CVD, par des techniques ultra-vide, haute température, basse productivité, chère, et on arrive à faire des GAS sur des germaniums. Les germaniums et les GAS ont les mêmes paramètres de maille, ils s'aiment bien, il n'y a pas de souci de déposer l'un sur l'autre. Si je vais remplacer ces germaniums par un silicium qui coûte 50 à 100 fois moins cher, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer, ce que je vous montrais dans le transparent précédent, une couche de germanium de 20 nanomètres, très fine, épitaxiée, donc qui aura les bons paramètres de maille pour que les GAS aient l'impression de se déposer sur des germaniums et pas sur des siliciums. Okay, donc c'est ça ce qu'on appelle un substrat virtuel. Quelque part, on triche, on fait croire au GAS qui se dépose sur des germaniums, quand en réalité, les germaniums, c'est une toute fine couche. Et donc, on remplace un substrat cher par un substrat qui n'est pas cher. Ça, c'est l'exemple, l'image de microscopie électronique en transmission. Le substrat cristallin, il est là. La couche de GAS déposée par une technique chère, elle est ici, par mon CVD. Et donc, vous avez votre GAS qui pousse bien, qui est bien cristallisé, grâce à cette fine couche de germanium de 20 nanomètres. Et en fait, on peut faire mieux que ça. On fait mieux que ça. On a fait avec des collègues à Madrid, ils sont allés directement, pas seulement du GAS, ils ont mis directement une jonction de tunnel, une cellule GA-INAS, donc matériau 3,5, et vous avez ici la caractéristique courant tension de cette cellule tandem avec sa réponse spectrale. Et donc la beauté ici, c'est que, en fait, le silicium n'est pas seulement un substrat, c'est la cellule bottom, la cellule en bas. Et donc la cellule silicium répond dans l'infrarouge, la cellule 3,5 dans la partie visible. Et comme ça, donc, je dirais que c'est la preuve de concept qu'on peut faire des 3,5 en réduisant les coûts de substrat. Deuxième étape, c'est réduire. Est-ce que je peux faire des 3,5 de bonne qualité à bas coût? Est-ce que si je mets du triméthylgallium et de l'arsine dans mon réacteur plasma, je pourrais faire des 3,5? Je pourrais faire un dépôt de GAS. Alors, on peut imaginer plein. Enfin, on imagine bien qu'il y a plein de problèmes, mais Lise est en train de faire des manips cet après-midi, donc elle fait ça, elle sort des couches. Et on a du plasma, donc on arrive à faire un plasma, réacteur 3,5 opérationnel. Il y a de la lumière. Pour aujourd'hui, on va dire que tant qu'il y a de la lumière, il y a de l'espoir. Je ne sais pas encore quelle est la qualité des couches, mais tout ça, ça m'amène à finir. Je pense que vous êtes fatigué probablement. Si on regarde un peu la vision, quelle est ma vision de la technologie PECVD pour du photovoltaïque à haut rendement et à bas coût? C'est ça l'enjeu. Donc, point de départ, j'arrive à Paris en 84, silicium amorphe, on y va, les enfants, hop. Et en fait, ça n'a pas donné, c'est pas parti comme ça, ça a plafonné. Ça a plafonné parce que, pour des tas de raisons, mais à un moment donné, on s'est dit, on va changer, on va garder l'outil, on va garder la technologie du plasma, et on va l'appliquer sur des cristallins. Donc ça a donné lieu à tout ce qui est cellules hétérojonction. On est passé des 10-15% au 26% de rendement. Et aujourd'hui, on est en train de se dire qu'on peut appliquer ces plasmas pour faire des matériaux 3,5 et pour aller au-delà des 30% de rendement. Voilà. Donc avec ça, je vous ai raconté un peu l'histoire. Donc ça commence, c'est une histoire qui commence avec mes parents, qui est très longue. Peut-être ce que je dirais simplement, c'est un travail d'équipe, et c'est ce que j'ai voulu montrer avec cette photo. Quand on fait de la recherche, c'est toujours, comme disait Daniel, les interactions, les échanges, c'est ça qui fait la richesse, et c'est ça qui nous permet d'avancer, de croiser des idées, de dire que ça marche pas. On comprend, et si on comprend, on avance. Et voilà, merci de votre attention.